Mais cœur du Christ, c'est encore beaucoup plus grand, parce que c'est à la fois le cœur de Jésus humain et le cœur de Jésus divin. Combien de gens aujourd'hui cherchent, comme Thomas, une preuve solide de la résurrection? Une preuve convaincante. En quelque sorte, si je cherche une preuve convaincante, je cherche une preuve qui m'oblige à croire. Mais si je suis obligé à croire, ma liberté, elle peut passer par... Elle n'est plus concernée, je suis obligé. Donc, ma liberté, je fais ce que je veux. Mais si, effectivement, c'est mon cœur qui se convertit et qui décide de croire sans preuve, alors mon cœur est engagé. Et mystérieusement, cet engagement-là, dans la foi, c'est cela qui me rend libre. C'est exactement l'inverse de ce que le manque de foi proclame. La société aujourd'hui veut des preuves matérielles. Et nous, nous sommes complètement fous parce que nous croyons que le Christ est ressuscité. Et en croyant que le Christ est ressuscité, de fait, ça transforme notre vie. Et nous sommes des êtres heureux dans un monde qui ne l'est pas. Et bien des gens nous disent, ils sont fous. Pour une part, ils n'ont pas tort. Mais qu'est-ce qu'ils sont malheureux de ne pas croire? Vous voyez, les disciples, ils sont combien ? 10 disciples, puisque Judas n'est plus là et Thomas n'était pas là. Les 10 disciples sont incapables de faire croire à Thomas que le Christ est ressuscité. Nous sommes, pour une part, impuissants de convertir et de convaincre les autres. Qu'est-ce qui peut aider ? Notre joie. Il est vivant. Et la carapace de Thomas cède. Voilà. Entrer dans le cœur de Christ. C'est au fond le centre de ce soir. Entrer dans le cœur de Christ. Voilà. Nous prenons maintenant un petit temps que je regarde... un temps de silence, d'intériorité. Pour ce temps personnel, je dirais en quoi le message de Dieu nous pardonne, nous libère, nous relève. Est-ce que ce message de Dieu, est-ce que le cœur du Christ qui m'invite, qui me demande la permission d'entrer dans mon cœur, et qui me fait entrer dans son cœur, qui me tire dans son cœur, est-ce que, c'est des mots pour dire quelque chose qui est au-delà des mots, mais est-ce que cela, ça vient me toucher? Comment je résiste à cela dans ma vie? Est-ce que je me laisse faire? Voilà, nous prenons quelques minutes personnelles, je dirais, pour laisser résonner intérieurement ce que j'ai entendu ce soir. Voilà, je vous propose maintenant de prendre un quart d'heure pour échanger avec des voisins, des voisines, par petits groupes de 4-5, pas plus, pour que le temps de partage, faire un écho à ce que vous avez pu entendre Comment est-ce que le cœur du Christ, la miséricorde divine, avec la Trinité, et le mystère du salut, comment est-ce que dans ce cœur du Christ, nous pouvons sentir qu'il y a vraiment tout le mystère de Dieu qui se concentre, et le Christ nous invite à entrer à cet endroit-là pour nous donner de la lumière. Un quart d'heure d'échange, et puis en même temps, vous pouvez vous mettre sur les côtés, et puis en même temps, il y aura des papiers qui seront distribués pour ceux qui veulent poser des questions de précision ou des développements. Thank you. Alors, les questions que vous me posez ce soir sont redoutables. Je vais d'abord essayer de m'expliquer un petit peu autour de ce que j'ai pu dire sur les blessures. Nos cœurs blessés qui vont rencontrer le cœur blessé de Jésus. Alors, pour certains, nos cœurs blessés, ça veut dire nos cœurs de pécheurs. C'est pas complètement faux. Mais il faut d'abord pouvoir dire que à certains moments, sans qu'il y ait de faute de notre part, il peut nous arriver d'avoir été blessés par d'autres. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'abord de faute de péché de notre part dans cette histoire. Donc, nos blessures, je les expose aux blessures vécues par Jésus. Les blessures que Jésus a pu vivre ne sont pas des blessures de péché. Il est mort à cause des péchés des hommes qui ont fait un faux procès et qui l'ont mis sur la croix. Dans nos cœurs blessés, parce qu'ils sont blessés, le premier réflexe, c'est de se replier sur lui-même. J'ai été blessé une fois, ça suffit. Donc, je me protège et je fais bien attention à ne pas recevoir un deuxième coup. Que fait Jésus ressuscité? Pour une part, il fait l'inverse. Il est complètement fou. Il dit à Thomas, enfonce ta main dans mon côté. Voilà. C'est-à-dire, il continue, je dirais, à s'offrir et à se donner. C'est complètement mystérieux, n'est-ce pas? C'est absolument pas humain comme réflexe qu'a Jésus. Alors, est-ce que dans nos cœurs blessés, malgré tout, il peut y avoir du péché? Donc j'ai bien dit, attention, nos cœurs blessés ne sont pas d'abord des cœurs pécheurs. Mais si nous résistons à l'invitation de Jésus à accepter de prendre ce risque que Jésus vienne réveiller à nouveau mes blessures. Ah non, 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 j'ai trop souffert. J'ai entendu des gens comme ça me dire, non, non, j'ai trop souffert. Non, non, je veux pas, 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 je veux pas. Que Jésus puisse s'approcher et que moi je puisse m'approcher de Jésus avec mes blessures. Non, non, je préfère mettre ça dans un coin, j'essaye d'oublier, Cette résistance ou ce refus qui ressemble au refus de Thomas, non, je ne veux pas croire, non, je ne veux pas aller par là. Cette résistance-là, oui, elle commence à être du côté du péché. Je ne fais pas confiance à Dieu qui m'invite à faire un mouvement qui est tellement difficile pour moi que intérieurement ça dit non. Et on peut dire avec la prière des pèlerins russes, Seigneur, prends pitié de moi s'il te plaît, viens à mon secours parce que en moi ça dit non. Voilà. Seigneur, je constate dans ma fragilité, dans ma faiblesse, parce que j'ai été blessé, je ne peux plus dire non, je ne peux plus dire oui. J'ai peur. Viens à mon secours, s'il te plaît. Et le Christ entend bien, je dirais, cette résistance qui peut y avoir en nous à ce qu'il vienne visiter nos blessures. C'est un peu plus clair comme ça, voilà. Vous voyez comment ce sont des endroits extrêmement délicats, très 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 délicats. Pouvez-vous préciser en quoi le cœur du Christ est le lieu de l'unité avec le Père? Alors, je ne m'exprimerai pas de cette manière-là. C'est Jésus qui dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Donc, ils n'ont, on pourrait dire, qu'un cœur et qu'une âme. Voilà. Ils n'ont qu'un seul projet. Ils voient les choses exactement d'une manière semblable. Et le Père envoie le Christ réaliser la création et le salut. Et le Christ, avec un zèle et un cœur débordant, il court pour faire la volonté du Père. Mais ce que le Père désire, le Christ le désire aussi. Alors, en quoi le cœur du Christ est le lieu de l'unité avec le Père? Je dirais, la manière de parler du cœur de Jésus, c'est pour dire, c'est tout Jésus. Je ne vois pas le cœur, je dirais, physique de Jésus qui aurait une particularité, une chose à faire particulière. Non. Quand on parle du cœur du Christ, c'est un condensé de l'ensemble de la vie de Jésus, humain et divin, qui est dans le cœur de la Trinité. Comment fait-on pour entrer dans le cœur de Jésus ? Dans ce que j'ai dit ce soir, j'ai dit que le cœur, Jésus désirait entrer dans le chantier de mon cœur. Voilà. Je ne fais pas entrer Jésus dans mes bons désirs et dans le salon qui est bien à peu près nettoyé un petit peu, mais Jésus me demande d'entrer dans le chantier de ma maison et éventuellement dans les pièces sur lesquelles j'ai pas fait le ménage. Voilà. Et lorsque je le laisse entrer dans ma pauvreté, dans ma fragilité, dans ma médiocrité, lorsque je le laisse faire ça, alors je peux sentir qu'il est heureux de l'autorisation que je lui donne. Et quand je vois son bonheur, alors j'ai envie de lui dire « Oh ben, tu peux tout visiter, allez vas-y. » Voilà. C'est parce que je sens qu'il est heureux que alors je lui donne l'autorisation d'entrer dans ma vie. Et lorsque je lui donne l'autorisation d'entrer dans ma vie, à son tour, il me dit « Mais donne-moi ton cœur. » Et moi, je le mettrai dans mon cœur. Et lorsque mon cœur entre dans le cœur de Jésus, eh bien, il entre aussi dans le cœur de la Trinité. Et il visite cette cathédrale absolument incroyable qu'est la Trinité. Voilà. Donc, pour une part, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, moi, je n'y arrive pas, tout simplement. Mais il y a un mystère de quelque chose. Si en moi, je peux dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, entre, viens, prends pitié de moi qui résiste. » Parce que nous résistons tous Nous sommes tous comme Thomas. Voilà. Ça dit oui et ça dit non. Les deux. Ça dit oui et ça dit non. Est-ce que Dieu me pardonne si moi-même je ne sais pas me pardonner? Ah. Et si je ne sais pas pardonner aux autres? Est-ce que Dieu me pardonne si je ne sais pas me pardonner? Ici, il y a sans doute le jeu de l'adversaire. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que l'adversaire, il est vaincu, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. C'est-à-dire, nous avons devant Dieu quelqu'un qui incessamment, tout le temps, vient dire à Dieu, il a fait ça, elle a fait ça, et ça, ça ne va pas, regarde, il mérite d'être puni, et tu devrais le condamner. Voilà. Donc, pour une part, en nous, il y a un travail de la culpabilité. J'ai un sentiment de culpabilité. Alors, il faut bien distinguer la culpabilité, j'ai fait une bêtise et je me frappe la poitrine en disant j'ai fait une bêtise. Voilà. Ça, c'est reconnaître sa culpabilité. Oui, j'ai fait ça. J'aurais pas dû le faire, je l'ai fait. Le sentiment de la culpabilité, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est un processus intérieur qui se met en route, un murmure que j'entends et qui peut m'obséder et qui me murmure, tu es coupable, tu seras puni, tu n'iras pas au ciel, tu vas voir. Si tu continues comme ça, ça ne va pas aller. Et ce raisonnement-là qui vient, il est de l'ordre essentiellement de l'adversaire. Le sentiment de culpabilité, vous pouvez à peu près sûrement dire, toi, ça va, dégage. Sans vous énerver. Ce qui va dégager, et puis 10 minutes après, il revient par un autre endroit. Donc il faut une patience avec nous-mêmes extraordinaire pour dire, allez, toi, dégage, ça va. Et une fois qu'on a dégagé le sentiment de culpabilité et l'adversaire qui vient nous attaquer, alors il y a une chose, et ça, c'est formidable, c'est, Seigneur, je pose ma joue sur ton cœur. Et là, je suis en sécurité. Et vous verrez que si l'adversaire, il s'aperçoit que sa manœuvre fait que vous allez poser votre joue sur le cœur de Jésus, alors il va se dire, zut, mon plan échoue, puisque ça fait l'inverse de ce que je désire. Voilà. Donc, pendant un certain temps, il vous laissera tranquille, parce qu'il ne saura plus quoi faire. Ça, c'est très bien. Voilà. Pour que le cœur du Christ met notre cœur au large. Et même si je ne sais pas me pardonner, même si je ne sais pas pardonner aux autres, parce que ce qu'ils m'ont fait, ça me reste en travers de la gorge. Seigneur, regarde. Toi, tu me pardonnes. Et moi, je ne sais pas le faire. Prends pitié de moi, vraiment. Voilà. Je peux demander au Seigneur cette grâce qu'il me fasse cheminer, qu'il me mette, je dirais, dans une disposition intérieure que quelque chose change. Moi, je peux très bien lui dire, « Seigneur, j'y arrive pas. » Et il accueille ma prière sans difficulté. Et je peux lui dire 10 fois, 20 fois, Seigneur, j'y arrive pas encore. Prends pitié de moi. Mais je ne vais pas faire semblant que je pardonne. Non. Si c'est coincé, c'est coincé. Et de faire la vérité, c'est beaucoup mieux que de faire semblant, de faire je ne sais pas quoi. Voilà. Vous voyez, c'est des questions vraiment importantes hein, que vous posez là ce soir. On sent bien qu'il y a quelque chose, un approfondissement qui se fait et qui est précieux. Oui. Mais vous voyez bien que les questions sont difficiles, délicates en tout cas. Voilà, il reste à prendre la prière que j'aime beaucoup, la prière du réseau mondial de prières, avec l'intention de ce mois-ci qui est sur la parole de Dieu. Après la soirée, vous pouvez prendre les numéros 119, 124 et 164, 166 pour Marguerite Marie à la coque. Je vois que les machines continuent à enregistrer, donc vous pourrez le voir. Éventuellement de prendre 125 et 128 jusqu'à 128 Claude La Colombière, 148 Vincent de Paul, 149 Sœur Faustine, 150 L'Actualité. Et puis la dévotion de la consolation, c'est ce que j'ai développé à un moment, vous voyez, nous nous consolons réciproquement, le Christ vient me consoler. Et lorsque j'accepte que le Christ me console, eh bien ça le console lui dans l'effort qu'il a fait de venir jusqu'à nous. Il y a un jeu de réciprocité. Et il faut de l'audace, je dirais, pour me dire, mais je vais moi aussi consoler le Christ de son épreuve. Mais qui suis-je pour aller consoler le Christ de son épreuve? Eh bien oui. Alors, la consolation, la dévotion de la consolation, c'est les numéros 151 à 163. 151, 163. Pour votre lecture et vos écoutes.
Merci encore. Bonne soirée.